me souviens d'un événement en BPI où j'intervenais et la fille qui m'interrogeait elle dit mais c'est quoi l'ambition pour Ornica? Je dis mais c'est très simple, nous l'ambition pour Ornica c'est de racheter Google. La vision qu'on porte avec mon associé pour Ornica, c'est de changer le monde. On veut que les gens juste se tuent moins sur la route. Mon associé me dit, c'est une opportunité. Réfléchis bien, si jamais 100% des syndicats de la profession nous attaquent, nous, petite boîte insignifiante avec aucun client, etc., c'est qu'on est en train de faire quelque chose d'énorme.
On est parti.
Allez.
Juste pour avoir une idée, la répartition aujourd'hui de ton business entre toute la partie code de la route, enfin, je ne me rends pas compte aujourd'hui, si tu peux en parler, des répartitions un petit peu.
Je parle de tout. Aujourd'hui, Ornicar, c'est deux business units, deux activités. Une activité qu'on appelle éducation, qui comprend l'activité auto-école. Mais en fait, en l'appelant éducation, on se laisse l'opportunité d'aller vers d'autres sujets d'éducation.
Okay.
Pour l'instant, c'est l'auto-école, donc c'est le code de la route et la conduite. Le code de la route, ça représente 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand on fait 60 millions l'année dernière, donc voilà, et le reste c'est la conduite. En revanche, on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus contributif en termes de marge, le code de la route, puisque c'est comme un espèce de produit de e-learning qui a été développé maintenant il y a 4 ans, qui est certes mis à jour régulièrement, mais aujourd'hui c'est le plus gros contributeur de marge pour Ornicar. Et puis après il y a l'autre activité, l'autre business unit, donc qui est l'assurance auto, et qui en termes de contribution au chiffre d'affaires, c'est ridicule. L'année dernière on a dû faire 1,5 million, parce que c'est le nombre de primes qu'on, enfin de la commission sur les primes qu'on collecte, mais en revanche en termes de potentiel, l'auto-école c'est un marché d'1,2 milliard en France, l'assurance auto c'est un marché de 18 milliards. À la dernière levée de fonds de 100 millions d'euros en avril 2021 avec KKR, l'assurance évidemment a une place prépondérante par rapport à ce qu'elle représente dans le revenu. C'est-à-dire que ça doit être au moins 50% des raisons pour lesquelles KKR a investi dans Ornicar, alors qu'à l'époque où ils ont investi, ça devait représenter 0,5% de notre chiffre d'affaires, quoi.
Et tu parles qu'une de tes missions, c'est de vendre la mission d'Ornicar, vendre Ornicar. Avec du recul, c'est quoi les choses que tu as apprises? Soit des erreurs, tu dis en fait, non, ça à pas faire, ou des trucs à faire. Là, quelqu'un qui nous écoute, qui veut améliorer sa manière de vendre son entreprise.
Difficile. Et forcément, j'ai fait des erreurs, mais je pense que j'en suis toujours pas conscient. Mais moi, la façon dont je vends Ornicar, c'est pour moi, je ne suis jamais assez ambitieux. Et je me souviens d'un événement en BPI où j'intervenais, c'était le big, là, l'événement de BPI. Et j'intervenais, et je sais que ça a frappé les esprits, parce qu'on m'en parle encore aujourd'hui. Et la fille qui m'interrogeait, elle dit, mais c'est quoi la vision et l'ambition pour Ornicar? Je dis, mais c'est très simple. Nous, l'ambition pour Ornicar, c'est de racheter Google. Donc, et ça, c'est marrant, ça a marqué les esprits. On m'en parle encore tout
c'est
le temps.
C'est une punchline, c'est, elle est puissante.
Ouais, ouais. Et donc, dans l'actualité, il y a, eu le Scale Up Europe il y a quelques semaines, où l'objectif, c'était de créer un nouveau fonds pour les boîtes européennes et d'avoir 10 boîtes en d'ici 2030, je crois, qui valent plus de 100 milliards, okay, de valorisation. Et je me suis dit, okay, mais quel genre de boîte peut valoir 100 milliards? Pour valoir 100 milliards d'euros, il faut changer la vie de beaucoup de gens. Je ne vais pas prendre l'exemple de celle qui, je ne pense pas, change, qui, je pense, ne change pas la vie des gens dans les licornes françaises. Je prends plutôt, pour moi, Doctolib. C'est une boîte qui peut changer la vie des gens. Avec les données de santé, etc., elle peut avoir un impact sur la façon dont on soigne tout un tas de maladies, sur la révolution de la médecine, etc. Je dis, mais comment Ornicar, auto-école créée en 2013, peut changer la vie du monde, des citoyens du monde? Et donc, nous, notre ambition, on veut avoir un impact sur la mortalité. On veut que les gens juste se tuent moins sur la route. Être formateur, c'est bien, mais c'est pas suffisant, parce qu'une fois qu'on a son permis de conduire, ça se saurait si tous les gens détenteurs de leur permis de conduire étaient des bons conducteurs. Donc on veut les accompagner avec l'assurance auto. Mais l'assurance auto, on veut pas le faire de la même manière que l'ensemble des acteurs qu'on connaît, des AXA, Allianz, Enco. Nous, on veut utiliser de la donnée dynamique, parce qu'aujourd'hui, ce qu'utilisent les assureurs, c'est de la donnée statique, c'est des statistiques sur l'accidentologie. Nous, on veut pouvoir utiliser, collecter de la donnée dynamique pour pouvoir être présent avec les gens qui conduisent et leur dire et anticiper à tel endroit, à telle date, à telle heure, avec telle bagnole et telle personne, si tu continues comme ça, tu vas te planter et avoir un accident. On voudrait pouvoir anticiper l'occurrence pour un driver d'avoir un accident de la route. Voilà la seule manière pour que Ornicar vale 100 milliards d'euros et plus un jour. Et donc, ça fait partie des exercices de pitch qui est comment je peux taper encore plus haut en termes de vision. À en être naïf, parce qu'évidemment, il y a des gens qui me regardent, il est complètement con celui-là. il dit n'importe quoi, il dit qu'il va valoir 100 milliards, qu'il va empêcher les gens de se tuer. Mais moi, je suis persuadé que c'est en visant évidemment très 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 haut qu'on arrivera, je pense, pas exactement à ce même niveau de développement de la boîte, mais au moins, ça aura tiré les équipes, ça aura tiré les résultats, tiré les performances de la boîte, forcément vers le haut. La vision qu'on porte avec mon associé pour Ornicar, c'est de changer le monde. Voilà, c'est juste de changer le monde. Et donc, moi, quand je vends la vision, quand je vends Ornicar à n'importe quel external stakeholder, donc je peux le vendre évidemment à des fonds d'investissement pour lever des fonds, ça c'est classique, je le vends à des médias, je le vends à des partenaires, je le vends à des candidats, à des équipes et voilà. Et donc voilà, moi je suis dans mon rôle aujourd'hui d'être hyper bullish. C'est vraiment le rôle que je veux occuper, d'être hyper bullish dans la vision, vraiment à en être un peu stupide pour certaines personnes, en disant mais il y arrivera jamais.
Ça vient d'où ce besoin ou ce désir de faire un truc énorme?
Je veux viser très haut parce que je veux faire d'Ornicar une énorme machine. Moi je suis pas là. Je suis un très mauvais gestionnaire. Je suis un business launcher. Je suis un entrepreneur. Mais alors, gérer des gens, je suis très mauvais manager. Et je m'ennuie très vite dans des phases de un peu de stagne de croissance. Moi, je suis, encore une fois, je suis un peu l'illuminé qui veut valoir 100 milliards, qui veut révolutionner le monde et qui n'est pas vraiment conscient des vraies problématiques de ma boîte en interne. Et d'ailleurs, je pense que si j'avais conscience de tous les pain points opérationnels que mes équipes ont à relever, à gérer, etc., je n'arriverais pas à être aussi ambitieux et aussi porté sur l'avenir avec des ambitions extraordinaires. Parce que je serais toujours happé par « Ah oui, mais merde, là-dessus, on a un problème avec cet enseignant, avec cet élève. Ah, et l'assurance, on a ce truc-là qui ne va pas, etc. » En vrai, je ne pourrais pas être aussi ambitieux si j'étais plus proche de la réalité.
Alors ça soulève plein de questions. Là, ce que tu viens de dire, justement, par rapport à l'interne, parce que c'est évident qu'avoir cette ambition, ça, en tout cas, pas forcément évident, mais pour une partie des gens dans tes équipes, j'imagine, c'est un moteur de motivation, c'est un moteur d'aller faire un truc incroyable. De l'autre côté, quand toi, t'es opérationnel dans tes équipes et que t'es dans tes petits problèmes du quotidien opérationnel, est-ce qu'il y a des moments où justement entendre son CEO raconter des trucs justement qui sont hyper loin par rapport au challenge du présent, ça crée de la friction? Et si oui, comment c'est géré?
Évidemment, ça crée de la friction, mais c'est mes équipes RH qui gèrent. En vrai, encore une fois, moi j'ai le meilleur rôle. J'arrive, je raconte n'importe quoi, très ambitieux, et il y a une partie des équipes forcément qui dit « mais il est vraiment stupide, quoi. Il n'est pas conscient qu'on n'a toujours pas d'application mobile, par exemple, tu vois, et comment il veut révolutionner, etc. » C'est un exemple. Mais en fait, c'est des gens qu'on perd sur le bord de la route, que leur manager ramène sur le chemin, et en fait, moi, je ne suis pas vraiment conscient de ces effets collatéraux négatifs. Je sais juste que j'ai plus intérêt à être dans cette position-là que dans une autre, pour lever des fonds, pour trouver des bons candidats. Parce qu'un mec comme le CEO d'assurance, s'appelle Philippe, un mec comme Philippe, je ne l'attire pas en disant que je veux être le leader français de l'auto-école. Quoi. Le leader français de l'auto-école, avec cette vision, je suis mal à l'aise, j'ai envie de vomir. Quoi. C'est pas du tout ce que j'ai envie d'être. Quoi. Je veux qu'Ornicar soit beaucoup plus, mais mille fois plus. Et évidemment, on a encore tellement de pain sur la planche, et c'est pour ça que je salue vraiment le travail des équipes, parce qu'elle, elle gère toutes les problématiques, et l'autre, il arrive et il dit qu'il veut être le maître du monde. Forcément, ça crée toujours un petit décalage, mais je pense que
il est nécessaire.
Voilà, il est nécessaire et il est plus bénéfique que maléfique.
Comment, parce que on pourrait facilement entendre, ben du coup, en fait, je peux facilement me déconnecter pour le coup tellement de la réalité qu'en fait, je deviens juste fou en fait. Il y a cette question de comment je prends ma vision ambitieuse où je me mets aucune contrainte et comment j'intègre la réalité pour arriver à mettre un plan d'exécution. Est-ce que tu vois des endroits où justement tu te mets des garde-fous toi-même? Par exemple, je crois que c'était dans l'interview avec Simon Sini, il parlait de cet exemple de l'île pour illustrer. Je suis persuadé qu'il y a une île et donc je continue de ramer. En fait, il n'y a pas d'île. Mais je suis tellement optimiste que je la vois, la putain d'île. Est-ce que toi, tu as développé des moyens de te dire, oula, c'est pas tant une question d'être optimiste, mais là, je suis en train de rentrer dans mon délire, en fait.
Alors, le seul moyen pour contrer ça, moi, je ne peux pas me mettre de garde-fous. Si je commence à mettre des garde-fous moi-même, je suis mort. C'est-à-dire que je ne serai donc plus optimiste, je serai réaliste. Et je ne veux pas être réaliste. Et donc, le seul moyen que j'ai trouvé pour mettre ses garde-fous, c'est les équipes. Et c'est connaître ses forces, connaître ses faiblesses. Et donc, c'est une de mes faiblesses, de ne pas voir la réalité et d'être persuadé qu'il y a l'île en face. Mais c'est pour ça que j'ai un associé qui me dit, attention, parce qu'il n'y a peut-être pas d'île. J'ai le directeur financier qui me dit, t'as vu ce que ça va consommer quand même pour aller jusqu'à l'île ? Est-ce qu'on va tenir, etc. Parce que s'il n'y a pas d'île, on ne pourra pas faire marche arrière, quoi. Donc, moi, je raconte n'importe quoi. Et je suis ravi qu'on vienne me dire, c'est complètement con. Tu vois ? Alors après, je suis ravi de débattre en disant, bah, attends, non, ça, c'est la vision qu'il faut avoir. Mais après, il me dit, mais mon associé, parfois, il me dit, mais attends. Que là tu veux racheter Google, etc., mais il va peut-être falloir qu'on lance une application mobile d'abord, quoi. Ornicar en 2021, c'est le 10e mot-clé le plus recherché sur les App Store, sur Apple Store, et on n'a pas d'application mobile.
Et pourquoi d'ailleurs?
C'est une erreur stratégique, tu vois, une erreur qui incombe à mon associé et moi, où à la technique, on a des personnes qui étaient moins convaincues par la pertinence et l'avenir des applications mobiles. Et donc, on a écouté et voilà, il y a eu du bon parce qu'on ne s'est pas dispersé dans le développement, dans le déploiement, etc. Mais aujourd'hui, c'est un vrai raté, quoi. J'ai aucun problème à dire que là, on s'est planté, quoi. Notre board nous disait une application mobile, tout le monde disait une application mobile et nous, on était là, on dit non, pas d'application mobile. Saut 2015 d'application mobile. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on est comme des cons en train de ramer et à faire une application mobile en urgence. Voilà. C'est s'entourer. Et d'ailleurs, c'est quoi les bonnes personnes? C'est les personnes qui vont justement être les garde-fous, qui vont être les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, qui est le rôle principal d'un CEO ou d'un co-CEO. Et un exemple où je perdais complètement conscience de la réalité, c'est les levées de fonds. Les levées de fonds, tu commences une levée de fonds, tu rentres dans une personne, enfin dans une personnalité de fou. Tu dis, mais tu n'as forcément, tu vas vendre pour le coup vraiment ta boîte à un fonds, donc tu vas pas commencer à lui dire, ah oui, il y a une fuite d'eau à la cave, la porte elle ferme plus, la fenêtre elle est cassée, etc. Non, tu dis, mais tout ça, il y a pas. Donc tu gommes toutes les problématiques de ta boîte. Quand tu lèves des fonds, tu dis, ma boîte c'est le prochain Google. Et tu te mets dans la position où tu vas minimiser tous les risques, toutes les faiblesses, et tu vas maximiser toutes les opportunités. Et moi, alors ça s'est moins passé pendant la dernière levée de fonds parce qu'elle a duré que 5 semaines, mais j'en ai qui ont duré 4-6 mois. Et à la fin des 4-6 mois, là, j'ai mon associé qui m'a récupéré par le col, qui dit, c'est bon, l'argent est sur le compte, donc maintenant tu vas redescendre. Je me souviens, il t'entend, il prenait des pincettes, etc. Mais on passait 3 heures. Il me dit, bah là, pendant 3 heures, je t'ai laissé tranquille pendant 6 mois, mais pendant 3 heures, je vais te lister toutes les merdes qu'on a. Et ça, c'était en général, je sortais de cette réunion. C'était un peu démoralisant parce que espèce de claque que tu prends, la claque de la réalité que tu prends, et voilà. Mais c'est vraiment une question d'état d'esprit, et je le savais, quand je rentre dans une levée de fonds, c'est comme quand t'arrives dans un combat sur un ring de boxe, quoi. Tu dis, je vais donner des coups, je vais pas en prendre un.
Mais alors, ok, c'est parfait, mais du coup, comment tu mesures, si tu le fais, prenons le recrutement, parce que pour le coup, la personne que tu recrutes, elle va être au quotidien chez toi, donc si t'as vendu un truc qui n'existe pas, qui est trop loin de la réalité, enfin, j'ai du mal à imaginer comment la personne va se sentir bien avec ça.
C'est un bon exemple. Ce qui se passe dans un recrutement, c'est que moi, j'arrive à la fin. En général, on sort la carte Ben quand le mec a un doute et il se dit, est-ce que la boîte a assez d'ambition? Tu vois, t'en bouges pas, on va te présenter Ben qui va te raconter n'importe quoi pendant une heure. Et le mec ressort, il est tout content. Mais avant, il a eu un process de recrutement où il a eu la réalité par tout le reste des équipes qui ont les pieds sur terre et qui sont évidemment éminemment conscientes de toutes les risques, les faiblesses, les opportunités de la boîte, etc.
Et c'est quoi votre process de recrutement? Il ressemble à quoi?
Il est assez lourd. Aujourd'hui, moi, je ne serais certainement pas accepté chez Ornicar, ça c'est sûr, parce que il y a je ne sais plus exactement l'ordre, hein, mais entretien manager, entretien culture fit avec une personne de l'équipe qui n'est pas son manager, entretien RH, il y a des tests entre guillemets psychologiques, des tests sur le GATT, sur la logique, l'anglais, et puis souvent des case studies. Voilà. Non, c'est hyper long comme process. Aujourd'hui, c'était une des valeurs que mon associé a commencé à mettre en place, que j'aime bien, on n'a pas gardé pour plein de raisons, mais qui est garde de fortress. On doit notre métier et le métier de tout le comité de direction d'Ornicar et de toutes les personnes qui recrutent des gens, c'est de garder la forteresse Ornicar, la forteresse en termes de culture, d'efficacité des talents et d'ambiance, effectivement, de culture de boîte, quoi. Donc ça, c'est hyper clé et c'est pour ça qu'on a quand même ce culture fit entretien avant de recruter quelqu'un. Et puis, une fois que les personnes sont arrivées, une fois par mois, on a un batch avec les nouveaux arrivants et mon associé, on passe une heure à parler de la culture de la boîte. Genre, les gens qui arrivent hallucinent vu la taille de notre boîte, l'ensemble des process. Et quand on dit l'ensemble des process, c'est pas péjoratif, quoi. C'est la façon dont la boîte est gouverné pour pouvoir améliorer donc l'alignement des équipes et la collaboration au service d'une exécution évidemment pas parfaite, mais une exécution assez, assez poussée, quoi.
Il y a 3-4 ans, on a fait face à un problème de taille qui me frustrait énormément. On stagnait vers les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et je comprenais pas comment m'en sortir. Jusqu'à ma rencontre avec Marc Simoncini où j'ai réalisé qu'un super entrepreneur, c'était pas quelqu'un qui était une machine en marketing, mais quelqu'un qui était une machine à recruter des talents. Et par hasard, en appelant la directrice du recrutement d'une des licornes françaises, elle m'a dit: j'ai entendu parler d'un outil dont l'investisseur principal de Notion, qui est un outil que j'adore, a investi dedans. Cet outil, il s'appelle HB. Et quand je l'ai testé, il y a 4 choses que j'ai vraiment adoré avec eux. La première, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons pour construire du reporting et des dashboards qui sont vraiment clairs et arriver à extraire la data que j'avais besoin. La deuxième chose, c'est que souvent les outils de recrutement permettent de juste faire l'ATS et de gérer la relation d'un candidat qui vient de postuler, mais qu'il fallait utiliser d'autres outils de recrutement qui peuvent coûter jusqu'à 3 000 $ par employé pour pouvoir faire ce qu'on appelle du sourcing. Et là, ils étaient en train de construire une extension sourcing inclue dans le package global. La troisième chose qui était importante pour moi, c'est que je sais que les équipes ont du mal à utiliser un outil qui est pas facile et intuitif à utiliser, et ils ont mis un énorme effort dans l'UX et l'UI, c'est intuitif. Et la quatrième chose qui était importante pour moi, c'est d'avoir une API publique ouverte qui permette d'automatiser un maximum de choses. On s'est obsédé là-dessus, ce qui nous a permis de pouvoir absorber, alors qu'on avait une équipe de recrutement que de 2 personnes, on a reçu plus de 50 000 candidatures l'année dernière. T'imagines, quand t'es une boîte comme nous de 60, c'est hyper dur à gérer. Mais on a pu automatiser des filtres automatiques, des relances automatiques, on peut avoir des systèmes d'alerte pour savoir si on n'a pas géré un candidat, pour préformater la manière de recruter les personnes en fonction de chaque poste. Bref, c'est dingue. HB, on l'utilise maintenant depuis plus de 6 mois et franchement, c'est en train de nous permettre de créer de la talent density. Et donc, je t'invite à regarder dans la description, regardez HB, c'est vraiment un outil incroyable. Aujourd'hui, Paradox, c'est quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et je pense qu'on a mis en place le système de recrutement qui va nous permettre d'aller jusqu'aux 100 millions de chiffre d'affaires. Donc HB, gros coup de cœur. Tu parlais tout à l'heure de vision. Toi, est-ce que tu as des routines, des rituels? Comment ça se passe pour toi de faire naître? Parce que c'est une chose de dire je suis ambitieux, mais il s'agit de mettre des choses en face. Ça sort d'où en fait les idées de à quoi va ressembler Arnicar dans le futur?
C'est les échanges. Moi, ce que je fais, et ça se voit, je déjeune. Je déjeune avec beaucoup, beaucoup de gens, des CEO, des investisseurs, des... Voilà, je passe mon temps à rencontrer des gens au restaurant ou dans des cafés où je vais dans les bureaux des gens, etc. Et j'essaye d'échanger au maximum sur les heures de journée. Encore une fois, on reviendra après là-dessus sur l'équilibre vie pro, vie perso. Je passe pas ma vie dans mes week-ends ou mes soirées avec d'autres personnes que ma famille. Mais la journée, je passe mon temps à échanger. Il y a plein de trucs qui sont venus sans que ce soit directement lié à tel ou tel rendez-vous, mais qui sont venus certainement alimenter sans que je m'en rende compte ma réflexion sur le coup d'après, etc. Et encore une fois, je dis beaucoup de merde et beaucoup de bêtises en disant, bah, tu vois, ça m'est arrivé de dire, la vision d'Arnicar, c'est donc d'être un leader sur la mobilité. Aujourd'hui, les constructeurs galèrent, etc. Et il n'y a pas vraiment de véhicule qui soit dédié aux jeunes, alors avec Dacia peut-être un peu plus. Mais pourquoi Arnicar ne serait pas constructeur automobile? On équiperait 100% de notre réseau d'enseignants avec nos véhicules, ce qui fait que les gens ont appris à prendre sur nos bagnoles et on pourrait donc être constructeur et créer notre marque de bagnole, quoi. Tu vois un peu comment les gens réagissent en disant, est-ce que c'est... En termes de débilité, on en est où, quoi? Est-ce que c'est vraiment le mec qui n'a pas du tout les pieds sur terre, ou est-ce qu'il y a des gens qui achètent ce genre de vision? Et donc, je fais beaucoup de tests et je rencontre des fonds tout le temps. Hein. Mon agenda, si on veut déjeuner avec moi, en général, c'est dans un mois et demi, quoi. Parce que tous mes déjeuners sont calés avec des gens. Et donc, ça vient nourrir un peu une partie de la stratégie, de mes idées, dont après, je discute avec l'équipe, avec mon associé. C'est un peu comme ça aussi qu'on est arrivé sur l'assurance auto. Qui est avec mon associé, on est sorti de 3 ans de galère, l'auto-école fonctionnait bien et on s'est dit mais on n'est pas là pour monter le leader des auto-écoles en France, quoi, sérieux.
Parfait comme transition, allons sur l'agrément.
Le fameux qui m'a pourri 3 ans de ma vie.
Raconte-nous depuis le début comment ça se passe et justement comment t'as fait en fait pour arriver à te lancer dans l'auto-école.
Je vais essayer de rien oublier et de le faire chronologiquement en étant totalement transparent, donc en rendant à César ce qui appartient à César, parce que comme j'ai pas beaucoup d'ego, j'ai aucun problème à reconnaître les choses. Déjà, Arnicar, c'est pas mon idée. La personne qui finalement à l'origine de notre idée d'attaquer le marché de l'auto-école et de la formation au permis de conduire, c'est mon ancien associé, quelqu'un qui s'appelle Alexandre Chartier, qui est venu me voir un jour, qui est un serial entrepreneur, qui avait déjà monté deux boîtes, qui m'a dit « il faut absolument qu'on crée quelque chose pour les auto-écoles, ce sont des acteurs hyper fragmentés, il faut qu'on leur propose un outil pour mettre en commun leurs ressources ». Moi, j'étais trop content de bosser avec un mec comme ça qui avait déjà monté des boîtes, etc. Et donc, on pitch un peu son idée à l'ensemble des auto-écoles, etc. Puis très vite, en tout cas, nous disent vraiment texto, bande de merdeux avec vos cheveux longs. Vous avez fait une école de commerce, vous pensez que vous allez pouvoir réinventer le monde. Nous, les auto-écoles, on n'a pas besoin de vous parce que l'Internet et l'auto-école, ça n'a rien à voir. Je dis bon, bah, pff, a priori, ça sent pas bon. Mais on avait un rendez-vous qui était pris, toujours avec Alexandre, mais qui était pris avec l'administration. Donc, on a été à la préfecture de police Boulevard Ney à Paris. Et on pitch l'idée à quelqu'un qui était en face de nous, qui s'appelle Ahmed, qui ne travaille plus là-bas, mais qui nous a beaucoup aidé, en fait, sans le savoir. Et qui nous a dit « Ah non, mais votre idée, c'est génial, mais effectivement, les auto-écoles ne voudront jamais bosser avec vous. » Je dis « Mais il n'y a pas un moyen de contourner les auto-écoles. » Et il me dit « Bah, bien un truc, mais non, mais laissez tomber. » Je dis « Attendez, on va creuser. C'est quoi ce truc-là ? » C'est le candidat libre. Comme pour le baccalauréat, on peut passer son code de la route et son permis de conduire en candidat libre sans passer par une auto-école agréée, etc. C'était, de notre compréhension, et c'est, ça s'est avéré vrai, hein, le seul moyen de disrupter le marché de l'auto-école. Parce que les auto-écoles, il faut comprendre que c'est pas... Aujourd'hui, si le permis est très cher en auto-école traditionnelle, c'est pas le patron d'auto-école qui roule en Ferrari, quoi. C'est clairement le modèle économique qui est pas bon. Pour être une auto-école aujourd'hui en France, il faut avoir un agrément d'auto-école, ce fameux agrément dont on va parler. Et cet agrément donc permet de se faire rémunérer pour l'enseignement de la conduite. Donc ça, en fait, c'est l'État qui avant était en charge de former les gens au permis de conduire, qui a dit non mais nous on sait plus faire, on va créer un agrément, on va déléguer ça à une partie d'acteurs privés. Donc, pour avoir l'agrément, il faut avoir un local de 25 mètres carrés, une voiture double commande, une télévision et un lecteur DVD. Pas hyper compliqué, hein. De avril à juillet, on va pitcher aux auto-écoles qui nous envoient chier toutes. On pitch à l'administration qui nous parle de ce système de candidat libre. Juillet, août, on travaille sur un nouveau modèle économique. On dit, puisque les auto-écoles ne veulent pas travailler avec nous, on va être nous-mêmes notre propre auto-école. Et on va créer un outil non pas pour les autres auto-écoles, mais pour nous. Et c'est comme ça qu'on a créé Ornicar, en disant, une formation en ligne pour le code et un réseau d'enseignants de la conduite diplômés équipés de leur propre voiture pour la partie conduite. Donc, je reprends ma chronologie. Juillet, août, on peaufine notre modèle. Septembre, on candidate à un projet qu'on a découvert pendant l'été qui s'appelait, parce qu'il est plus en vigueur aujourd'hui, 101 projets, qui était un moyen de promouvoir l'entrepreneuriat. Et finalement, les règles étaient claires. Subventionné à hauteur de 25 000 euros, 101 projets portés par des entrepreneurs de moins de 25 ans. Voilà, donc ça c'était les critères pour pouvoir candidater. Et donc on balance notre dossier comme tout le monde, je crois que c'est la deadline, ça devait être le 25 septembre, c'était très 25. Et donc on balance ça le 25 septembre, ils reçoivent je crois 3500 dossiers et puis ils en faisaient pitcher, je crois que c'était en novembre, ils en faisaient pitcher 300. Okay, et sur ces 300, ils en sélectionnaient 101. Donc on est sélectionné pour pitcher dans les 300, on pitch, enfin c'est mon Alexandre qui pitch. Une minute pour pitcher la boîte. Et donc, on est sélectionné. Et en fait, moi, j'avais dit, je quitterai ma boîte le jour où on aura un signe fort comme quoi il y a un potentiel sur Ornicar. Et là, non seulement on est sélectionné, mais c'est Marc Simoncini qui annonce les résultats sur Twitter. Et donc, hashtag 001 Ornicar. Dans tous les médias, évidemment, une fois qu'on a gagné ce concours, on communique et on dit qu'on a gagné, qu'on est le numéro 1, etc. Bon, ça, c'est pour la petite anecdote. Mais donc, on est début décembre 2013. On a gagné 101 projets. On a 25 000 euros de financement, plus un early investor, un peu notre bonne fée, Benoît, qui nous prête 15 000 euros, plus nous qui mettons 5 000 euros chacun. Bref, on a un capital de 50 000 euros. Et donc, j'ai passé quelques temps à débattre et à négocier avec mon ancien boss pour qu'il accepte de me foutre dehors. Et voilà. Bon, bref, ça a pris 3 semaines. Mais on est le 20 décembre et ça y est, je suis full-time avec Alexandre sur le projet Ornicar. On a 50 000 euros de financement et on dépose notre premier dossier d'agrément à la préfecture de police de Paris. Et là, commencent les emmerdes. Tout début janvier, je pense que c'est entre le 1 et le 5, quoi, le 1er et le 5, il y a un article dans L'Opinion qui sort. et qui nous cite, pour le coup on avait répondu à une interview, etc., donc c'est entièrement de notre faute, hein, et qui nous cite et qui dit, le titre c'est une citation, alors je sais même pas si elle est de mon associé et de moi, de mon ex-associé de moi, qui est: avec Ornicard on veut mettre fin aux raquettes organisées des auto-écoles. Vous êtes une auto-école, vous avez deux merdeux de 25 ans qui arrivent et qui vous qualifie de voleur et de racketteur, évidemment, la réaction ne s'est pas fait attendre. On s'est pris des courriers de menaces, des appels d'insultes, etc. Parce qu'on a insulté toute une profession. Finalement, quand on a ces réactions-là, on appelle les réseaux ECF et CER, on les rencontre. Alors, je les rencontre seul parce qu'il y a panne de réveil de mon ex-associé. Et donc, je vais rencontrer... alors là, je crois que c'était le meeting le plus désagréable de ma vie. On est dans une salle en banlieue, mais gigantesque, la salle avec une grande... des tables en rectangle, quoi. Eux, ils étaient 20, j'étais seul. Et ils m'ont enchaîné pendant 2 heures. Vous êtes complètement inconscient, etc. Et moi, j'ai passé 2 heures à m'écraser et à dire qu'on était désolé, machin, etc. Donc, à vraiment essayer de rattraper, à faire un mea culpa de cette bourde de communication. Là, il se passe 2-3 mois. On avance sur notre site internet. On attend de recevoir l'agrément, etc. Mais l'agrément commençait normalement, c'était 3 semaines. Ça faisait déjà 3 mois. On se dit, bon, je sais pas ce qu'ils foutent. Ils ont peut-être beaucoup de demandes. Et là, encore une fois, petite anecdote, on est le 9 avril ou le 10 avril, je crois que c'est le lendemain de l'anniversaire de mon associé, et on fait une fête dans les bureaux. Hein. Ça, on faisait la fête, hein, y a pas de problème, on n'a pas de clients et pas de boîte, mais enfin, on a une boîte mais vide, mais on faisait la fête. Et donc le lendemain, j'avais une interview avec le Nouvel Ops. On fait l'interview dans les bureaux de l'époque, une espèce de garage à Ménilmontant. Et là, donc avec le Nouvel Ops, et là arrive à la porte quelqu'un qui tape, on est au rez-de-chaussée donc c'est facile, il tape à la porte avec un casque, un espèce de coursier qui arrive avec un gros document qui dit merci de signer ici, etc. Et là moi j'étais refait, je me dis mais c'est l'agrément qui arrive pile pendant l'interview, elle va jamais me croire la journaliste, elle va croire que c'était une mise en scène, etc. Et là j'ouvre et là c'est pas du tout l'agrément. Assignation à comparaître des 6 syndicats de la profession qu'on avait bien insulté 3 mois avant. Assignation à comparaître, 50 000 euros d'amende, 12 mois de prison ferme pour les fondateurs, 5 ans d'interdiction de monter une boîte en France. Voilà ce qu'on risque. On est à J plus 4 mois de création de boîte. On a 24 et 25 ans. Et pas un client, pas un euro de chiffre d'affaires. Et on a déjà notre premier procès. Et donc, on surréagit. Et voilà. Et donc, je dis à la journaliste, on va s'arrêter là. Parce que là, j'avais peur, quoi. J'avais peur, j'avais des sueurs froides, c'était vraiment pas bien, quoi. Encore une fois, on est jeune, hein, et on n'a pas de clients, on n'a rien, quoi. Juste un procès. Mon associé me dit, c'est une opportunité. Réfléchis bien, si jamais 6 syndicats de la profession, donc 100% des syndicats de la profession, nous attaquent, nous, petite boîte insignifiante, toute petite, avec aucun client, etc., c'est qu'on est en train de faire quelque chose d'énorme. Et voilà, il me dit ça. Et je me dis, mais il a raison, quoi. Évidemment qu'il a raison. Donc, on va trouver un avocat et on va régler les problèmes un par un, quoi. Et donc là, moi, je fais la tournée des popotes je vais voir. Finalement, je suis mis en relation par un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le Mouji. Je suis mis en relation avec un avocat qui s'appelle Xavier Audino, qui est encore notre avocat aujourd'hui et qui nous dit, OK, bah, je vous aide. Il nous fait des conditions tarifaires canon. En disant, bah voilà, c'est un partenariat d'avenir, si ça marche. Évidemment, si on gagne le procès, je veux qu'on cite mon nom. C'est normal, quoi. Lui aussi démarrait, et donc il crée son image et tout. Parce qu'on nous attaquait, en fait, d'exercer la profession d'auto-école avant d'avoir un agrément. Alors qu'on avait qu'un. C'était notre chance, c'est qu'on avait qu'un site vitrine et qu'il n'y avait rien qui était actionnable. C'était juste on présentait ce qu'on voulait faire et on n'avait rien exercé du tout. Et c'est comme ça qu'on gagne le procès, on gagne partiellement le procès. Donc là, on est fin juin, je crois que c'était 27 juin. Et genre le 7 juillet, la décision tombe. Et même avant la décision, la veille, notre avocat, Xavier, nous dit il faut préparer des communiqués de presse. Il faut préparer 2 communiqués de presse. Un, on a tout gagné et un, on a... pas tout perdu. Et donc, on passe la soirée à préparer ces 2 communiqués de presse, etc. Il me dit, c'est le premier qui shoot le communiqué qui aura gagné, en fait. C'est pas celui qui a vraiment gagné, c'est le premier qui shoot aux médias, ça sera pris par les journalistes. Et il avait été hyper clairvoyant là-dessus. Et il récupère l'assignation et on gagne partiellement. Donc, effectivement, le juge dit, mais ils n'ont pas exercé, donc ils sont pas en faute. En revanche, leur modèle, en tant que tel, ne sera applicable que le jour où ils auront un agrément. Et en attendant, merci de retirer toute mention des tarifs sur votre site, que vous n'avez pas le droit de parler de prix tant que vous n'avez pas l'agrément. Donc, et nous, on balance le communiqué de presse où on a tout gagné. Et là, c'est repris, mais c'est repris, c'est mon téléphone explose. Mais littéralement, j'ai, je pense, 30 messages de journalistes, etc. Et donc là, l'été 2014, donc c'est avec cette décision de justice, on fait genre 230 parutions presse. On fait des plateaux télé, des plateaux radio. On n'a pas un client. On a juste une idée et une page vitrine. Et un procès à peu près gagné. Et donc là, on fait la tournée des popotes, etc. Mais nous sommes Steve Jobs et Steve Wozniak à la tête d'Apple, quoi. Alors qu'on n'a rien. Mais bref, tout le monde nous invite partout, etc. On fait énormément de presse. Le site des trafics explose, etc. C'est génial. Personne ne peut rien acheter, mais c'est génial. Et qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui se passe avec ce truc ? C'est que les investisseurs nous voient passer en disant « Mais c'est quoi cette boîte, quoi ? C'est quoi cet ovni ?» Personne ne l'a jamais vu arriver. Et en un mois, on ne parle que d'elle. Et donc, on rencontre... Enfin, des fonds nous approchent. Donc, un fonds qui s'appelle Elaya. Et on se dit, bah attends, si on peut se prendre un salaire et minimiser les risques et jouer avec l'argent d'autres, parce que c'est le cas, hein. Moi aujourd'hui, je joue avec l'argent de mes investisseurs. Hein. C'est pas mon argent qui est en jeu, quoi. Et donc, on lève 1 million d'euros en novembre 2014. Et c'est exclusivement grâce à ce procès qui est lié à cette attaque dans l'opinion en janvier qu'on a gagné, qu'on a eu la médiatisation, qu'on a été repéré par les fonds et qu'on peut lever des fonds sur une boîte qui n'a toujours pas d'euros de chiffre d'affaires, pas de clients, pas d'agrément, pas le droit d'exister, quoi. Nous voilà richissimes vu notre âge et le développement de la boîte avec 1,4 million. Et qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut rien faire. On n'a pas l'agrément et ça n'est pas dépendant de notre volonté. C'est l'État, l'administration. Et on se dit, OK, quelle est la faille, etc. Et on voit quand même, et on réétudie la décision de justice, on voit qu'on peut quand même faire du code de la route sans agrément. Et donc, on dit, bah, on va aller travailler le code de la route et on va commencer à gagner de l'argent en vendant du code de la route. Et donc là, on se dit, bah, on va voir les éditeurs. Parce qu'il y en a, c'est leur métier de produire du contenu. Donc, c'est Code Rousseau, que tout le monde connaît, et Deezer, ou NPC. Trois éditeurs, on va aller voir. On leur dit, bah, voilà, on est Ornicard. Tout le monde nous connaissait, hein, déjà. Nous sommes Ornicard et on veut vendre vos produits sur notre plateforme. La réponse est unanime, non. Refus de vente. Non, non et non. Les trois ne veulent pas. On creuse, on dit, mais attendez, vous êtes des oufs. Et là, ils nous disent, non, mais en off, ils nous disent, mais le problème, c'est qu'on a reçu un courrier des auto-écoles traditionnelles. Le premier qui bouge avec vous demandera à l'ensemble des adhérents et des auto-écoles de ne plus travailler. Donc le premier qui bouge avec Ornicard va perdre tous ses clients historiques. Et nous, Ornicard, à l'époque, c'était 300 codes par mois, quoi. C'était pas de quoi remplacer tout le business qu'ils avaient. Et donc ils nous refusent tous de nous vendre leurs codes. Et donc on a dû dire, OK, bah, système D, on a mis des gens dans des bagnoles, qui ne sont pas vraiment des experts, hein, des anciens de la conduite, dans des bagnoles. On leur a acheté de l'équipement, donc une partie de l'équipement que je peux voir dans cette salle, mais en plus limité. Et ils sont partis prendre des photos et écrire des questions, etc. Et on a développé, on a sorti notre première série, nos premières questions de code en mars 2015. Toujours pas d'agrément. On se renseigne, on attaque devant le tribunal administratif en disant « mais vous devez nous donner notre agrément, etc. » Pas de réponse. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de réponse, quoi. On est en mars 2015. En mars 2015, on lance le code de la route parce qu'on n'a pas besoin d'être une auto-école agréée pour ça. Et voilà. Et là, on a des clients, ça marche bien. On fait nos premiers chiffres d'affaires en mars 2015. Et ce qui devait arriver, arriva. Et l'été, donc juillet 2015, on a des clients qui viennent nous voir en disant « J'ai eu mon code, super, merci beaucoup, maintenant je voudrais passer à la conduite. » Et on dit « Bah non, mais nous on n'a pas d'agrément, donc on peut pas faire de conduite, mais aller dans une auto-école. » Ils vont dans une auto-école, ils reviennent nous voir en disant « Mais tous, hein, l'auto-école ne veut pas travailler avec nous, ne veut pas nous accepter parce qu'on a déjà notre code avec Ornicard. Donc, comment on fait ? » Et alors là, ça sent à plein nez le bad buzz. Mais on dit « Allez, on pivote, c'est plus possible, faut qu'on trouve une solution pour nos clients. » Face à un obstacle, on peut pas attendre bêtement, donc on va mettre le pied dans la porte. On réétudie tout le code de la route, mais je le connais par cœur. Les articles L213-3, etc., je les connais par cœur. Et on se rend compte que l'agrément d'auto-école permet de se faire rémunérer pour l'enseignement de la conduite. Donc, on fait une réflexion inversée. On se dit, bah, donc, si l'enseignement de la conduite il est gratuit, je n'ai pas besoin d'agrément. Donc, on dit, OK, nos enseignants partenaires à l'époque qui ne travaillaient pas, qui attendaient pour partir, on leur dit, bah, vous allez donner des leçons gratuitement. On dit, OK, t'es gentil, mais comment je me paye ? On a la solution. Vous avez votre bagnole et c'est votre bagnole que vous allez louer. Donc, vous allez louer votre bagnole à l'élève qui va faire finalement une prestation, qui va acheter une prestation de location de voiture. Et comme par hasard, vous êtes dans la voiture en train de prodiguer des conseils de la formation en conduite, mais à titre non onéreux. Et là, on lance en septembre 2015, on lance la conduite. Et alors là, mais raz-de-marée dans la profession, chez les hommes politiques, etc. Non, mais comment ils ont fait ? Ils sont barges. On leur a pas donné l'agrément. Les mecs, ils annoncent à tout le monde, on fait 4 JT, 3 JT en une semaine. 4 JT, TF1, France 2, France 3, M6 en une semaine. Tout le monde s'excite, ça y est, Ornicard, enfin, peut lancer la conduite. Moi, je me fais coacher par notre conseiller en affaires publiques sur, attention, parce que la frontière est tricky. Donc, quand un journaliste t'interroge, etc., tu dis, nous sommes la première location de plateforme de véhicules à double commande avec accompagnement d'un enseignant à titre bénévole. Ce qui ne veut rien dire. Mais c'est invendable. C'est vraiment, personne ne comprend rien. Mais on lance la conduite. Et là, donc, et puis finalement, tout le monde fait des raccourcis en disant, ils ont eu leur agrément, ils lancent la conduite. Les politiques nous appellent en disant, mais vous êtes barge, etc. Tu dis, mais regardez bien notre modèle, on est 100% dans les clous. Ça crée vraiment un tollé pas possible. Mais nous, ça fait nos affaires. Et donc, les clients sont trop contents. Et on en met plein dans la conduite le plus possible. On essaye de grossir pour en mettre sur la conduite avec un raisonnement qui est, on veut être too big to fail. Une fois qu'on sera trop gros, plus personne pourra aller nous fermer parce que sinon, il faudra expliquer pourquoi les élèves auront payé des heures de formation et que finalement, ces heures de formation ne sont pas valables et qu'on ne les remboursera pas. On sait qu'on a une fenêtre courte parce que les syndicats, ils ne vont pas se laisser faire. Donc, ils vont nous attaquer en justice. Donc là, on dit, OK, on charge. Plein de clients. On vend plein de trucs. Et puis, évidemment, ce qui arriva. On se prend un procès. Alors, pour le coup, la justice n'est jamais rapide, sauf quand c'est contre nous, quoi. Et là, en 2 mois, c'était plié. Donc, ils nous attaquent en octobre. L'audience a lieu en décembre. Et fin décembre, la décision tombe. Évidemment, ils nous attaquent sur le fait qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on fait. Et les décisions tombent. Et moi, j'apprends un nouveau terme. Ça s'appelle l'abus de droit. Prendre plusieurs bouts de loi et en faire sa propre interprétation, c'est de l'abus de droit. Et ça, honnêtement, on ne le savait pas. Et donc, on perd. On est décembre 2015. On perd. Et puis, en plus, à ce moment-là, il y avait de l'eau dans le gaz avec mon associé. On s'est trop éloigné dès le début et on a eu des divergences de vision de plus en plus fortes jusqu'au moment où on ne pouvait plus réconcilier nos deux visions. Et donc, il a fallu qu'on demande à nos investisseurs de nous aider à départager qui reste, qui part. Quoi. Les enfants, vraiment les enfants qu'il fallait séparer. Quoi. Et le seul qui est remotivé et qui croit, c'est Flavien. Qui me dit, tain, c'est trop con et tout, abandonne pas. Si jamais les investisseurs te retiennent, moi, je suis trop chaud pour le faire avec toi, etc. Il me motive avec aussi les 3-4 personnes qui étaient dans mon équipe à Paris. Bref, et donc, il me rebooste, quoi. Il me dit, on va tout déchirer, etc. Et donc, voilà. Donc là, on est décembre 2015. C'est un peu la merde. Avec Flavien, on finalement récupère la boîte. Et lui me dit, arrêtons avec cette connerie de pivot, là, de location de véhicules double commande et tout. Redemandons un agrément. Je dis, bah, allez, on y va. Mais on va faire ça intelligemment. Je n'étais pas vraiment très intelligent, mais on fait ça intelligemment. On se dit, OK, on est grillé à Paris, tout le monde nous connaît. Donc, c'est vraiment Obélix qui fait la queue pour la potion magique et qui met une perruque, quoi. On arrive, on se dit, OK, on change de nom et on va se demander l'agrément à Nantes. On va profiter, on avait des bureaux à Nantes. Et donc, on arrive, on dépose notre dossier à Nantes sous le nom de Marianne Formation. On change de dénomination sociale. Et aujourd'hui, tu vas regarder sur société.com ou Infogreffe, Ornicar, c'est Marianne Formation. Et c'est cette tentative échouée qui fait qu'on s'appelle aujourd'hui Marianne Formation. On dit, on va trouver un nom qui passe partout. Et qu'est-ce qui se passe? Les mecs voient mon nom, ils nous appellent en disant, vous pensiez vraiment qu'on n'allait pas faire le rapprochement? Vous nous prenez vraiment pour des idiots, quoi. Et on se dit, bon, c'est pas grave, en tout cas, c'est nous, mais le dossier est complet, conforme, comme il l'était à Paris, hein, d'ailleurs. Et donc là, on dépose ce dossier en décembre 2015, et là, on repart dans la même galère, où on n'a pas de réponse, pas d'infos, etc. Mais notre conseiller en affaires publiques ou lobbyiste de l'époque, qu'on ne pouvait plus payer, donc il ne travaillait plus pour nous, en mars, il travaillait pour le travail de dimanche aussi, donc il a d'autres clients sur le travail du dimanche, et donc il a un entretien qui change la vie d'Ornicar, parce qu'il a un entretien sur le travail de dimanche, avec Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Et en fin d'entretien, gentiment, alors qu'on avait, on le payait plus, hein, en fin d'entretien, cette personne, donc ce lobbyiste, demande à Emmanuel Macron, on dit, by the way, Ornicar, tu sais que c'est la fin et tout. Et là, Macron dit, non, mais c'est pas possible. Ça fait 8 mois que j'ai fait la loi août 2015, là, machin, pour permettre l'émergence de nouveaux modèles. Je comprends pas, quoi. Comment ils ont pas leur agrément? Ils sont nuls ou quoi? Et le mec dit, non, ils ont déposé un nouveau dossier, etc. Et c'est la rebelote. En fait, l'administration a peur en général, mais encore plus des professions véhiculées. Une profession véhiculée, ça va dans la rue, ça te bloque une ville. Ça te fait des opérations escargot, etc. C'est pour ça que les ambulances, les taxis, les auto-écoles, ça fait peur. Bref, Macron, alors moi, je raconte ce qu'on m'a raconté. Donc le lobbyiste me raconte ça après. Il me dit, hallucinant, Macron prend son téléphone, appelle Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur à l'époque, ministère de tutelle des auto-écoles. Moi, en tant que ministre de l'économie, je n'accepterai pas que l'administration régule l'économie. Si jamais le dossier est conforme, que concurrence se fasse. Donc, tu leur donnes leur agrément. Une semaine plus tard, on est appelé par la préfecture de Nantes, où on a déposé notre agrément. Tenez, messieurs, donc Flavien et moi, voici l'agrément. Ça faisait 3 ans que j'attendais ça. 3 ans que n'importe quelle réunion personnelle de famille. Et alors, ton agrément, c'en est où? J'en pouvais plus, quoi. Et là, on me donne ça, mais c'était... C'était extraordinaire, mais on n'a plus de cash. Donc heureusement, en attendant, j'avais négocié avec BPI. Et BPI, je leur avais dit, il faut nous refiler un bifton parce que là, on n'y arrive plus, quoi. Et il m'a dit, ben non, mais on va pas vous financer, là, vous n'avez pas votre agrément. Je dis, ok, on a l'agrément, vous nous financez. Il se dit, ok, je fais préfecture, direction BPI Nantes, je dis, voilà l'agrément, prenez une photocopie, je récupère l'original. Et 3-4 jours plus tard, ils nous versent 400 000 euros pour payer les salaires et repartir en croissance. Voilà, dans les détails, je suis désolé, c'était long, mais voilà ce qu'on a traversé avec Ornicar.
Est-ce qu'il y a eu une histoire avec Sarkozy, non, ou à l'Elysée, ou je me souviens plus
Non, ouais, alors oui, c'est pas Sarko, hein, c'est Hollande. Après le premier procès qu'on a gagné, ou partiellement gagné, en juillet, on fait 200 parutions presse. Et en août, une journaliste nous appelle, le New York Times. On fait un article. En anglais, moi à l'époque c'était très très compliqué, bref, on hyper sympa, je me souviens très bien, et on fait cet article, et l'article sort le 29 août, et ça pas n'importe où, hein. Première page, la une du New York Times International, celui qui est distribué partout en dehors des US, et on est en deux ou troisième de couverture dans le New York Times des US, et là le titre, enfin l'article c'était du French bashing, c'est regardez comment la France maltraite des start-upers qui essayent de révolutionner et d'améliorer un système de la formation permis de conduire, etc. C'est ridicule, machin, il faut un lecteur DVD en 2015 pour obtenir en 2014 pour obtenir un agrément, regardez ils sont préhistoriques, machin, etc. Et là on se fait convoquer à l'Élysée, des enfants. Il nous appelle, on dit oui, le conseiller, je sais plus quoi, de François Hollande, vous attend à l'Elysée tel jour, telle heure, vous n'avez pas le choix, vous venez. Nous, on se dit ok, l'Elysée est chambée et tout, il paraît que c'est canon, on y va, on met une veste et on arrive et on demande au garde, on dit, pouvez-vous prendre une photo, etc. Donc le garde dit ok et on pose fièrement, etc. On prend une photo et on est là dans la cour de l'Elysée. On arrive à l'entretien, on se fait déchirer la tronche. Bon, moi, je l'arrête tout de suite, je dis écoute, Michel, ça va être très clair. Tu te calmes tout de suite. Si tu as envie qu'on raconte une belle histoire dans la presse internationale, à toi de faire qu'on ait une belle histoire. Notre histoire, elle est lunaire. Elle est lunaire, ça fait 6 mois qu'on attendait notre agrément. Alors que normalement, il faut une télévision, un lecteur DVD, quoi. Non, mais t'es sérieux. Donc on calme tout de suite, on se barre en moyen terme. Et nous, trop fiers, on poste sur notre page Facebook Ornicar, trop content, on poste la photo, reçue à l'Elysée, etc. Le lendemain, deuxième de couverture du Figaro. On prend la moitié de la page. Notre gueule, notre selfie dans la cour de l'Elysée, mais qui prend la moitié de la page du Figaro avec en titre les auto-écoles traditionnelles, les syndicats d'auto-écoles traditionnelles vent debout car l'auto-école a été, Ornicar a été reçue à l'Elysée alors qu'elle, ça fait 3 ans qu'elle demande à être reçue à l'Elysée. Et là, évidemment, coup de fil de l'Elysée qui nous déchire une deuxième fois en disant mais vous êtes stupide ou stupide quoi. Et ce genre de rendez-vous, vous ne le communiquez pas, etc. Maintenant, on va être obligé de recevoir les auto-écoles traditionnelles, etc. Et donc voilà. Donc ça a été les grosses erreurs. On en rigole, tu vois, mais la meilleure négociation possible, c'est quand on n'a plus rien à perdre. Et moi, c'est pour ça qu'Ornicar, je suis prêt à perdre Ornicar aujourd'hui. Tout le temps. J'ai toujours été prêt à perdre Ornicar parce que maintenant, je n'ai plus rien à perdre. Quand je négocie une levée de fonds, le nombre de fois, et s'ils nous écoutent, ça va faire vrai, mais le nombre de fois où j'ai retourné la table en disant attends, tu veux mettre cette clause dans la levée de fonds? Vas-y, on arrête le deal. Enfin, tu n'y penses pas, ça fait 5 mois qu'on travaille dessus. Ah non. Moi, si tu mets cette clause, il n'y a plus de deal. Je me souviens, mais on a failli faire capoter des levées de fonds 2 heures avant la signature. Parce que c'est là où ils essayent de te mettre des carottes.
Et toi, quand tu le dis, tu es vraiment prêt à perdre?
Ouais, je suis vraiment prêt.
C'est une des questions que je voulais te poser. Comment tu fais pour... l'ego, ça a une vertu. Ça te fait faire des trucs. Ça a aussi des inconvénients. Comment tu trouves le bon équilibre?
Pour répondre à ce sujet de la définition de l'ego, nous, il y a deux valeurs. On a eu plein de valeurs, etc. Mais aujourd'hui, on est très à l'aise avec ces valeurs. On a défini que deux valeurs chez Ornicar, c'est l'ambition et l'humilité. Et souvent, on dit, mais attends, c'est difficile d'être humble, enfin d'être ambitieux et en même temps humble. Quand tu dis que tu vas racheter Google, c'est pas très humble. Bah, la vérité, c'est que si, parce que je suis très à l'aise avec le fait qu'on n'y arrivera pas. Avec l'échec, avec le fait que pour y arriver, je vais devoir apprendre de personnes, que je n'ai aucune idée du chemin pour y aller, etc.
Oui, et il y a une différence entre être ambitieux et se la péter.
Exactement, exactement. Et donc voilà, donc moi aujourd'hui, quand je dis que j'ai pas d'ego, c'est évidemment, c'est une exagération, je pense que tout le monde a un minimum d'ego, mais le problème de l'ego, c'est que ça te fait prendre toujours des mauvaises décisions. Pourquoi je vais balancer la photo de nous dans à l'Elysée sur Facebook? Parce que t'as envie que les gens voient que t'étais à l'Elysée. C'est châle, c'est cool, quoi. T'as 25 ans, t'es à l'Elysée, tu vois. Mais ça n'apportait rien au niveau business. C'était une décision exclusivement drivée par l'ego qui a eu des répercussions négatives sur Ornicar. l'ego, c'est notre principal ennemi, qu'il faut le laisser à la porte du bureau, c'est qu'il faut accepter la critique. Il faut accepter de se faire critiquer par ses managers. Il faut accepter d'avoir dit des conneries. Moi, j'en dis beaucoup et je passe mon temps à faire des mea culpa chez Arnica. Non, mais je suis désolé, je t'avais dit qu'il fallait faire ça, c'était une bêtise. Ou on avait pris cette stratégie, c'était une bêtise. Ou on a fait... Et reconnaître qu'on a fait des erreurs, quoi. Et reconnaître qu'on est nul sur plein de sujets. Et reconnaître ses faiblesses. Tout ça, c'est ce que l'ego ne permet pas de faire.
Ouais.
Les entrepreneurs avec trop d'ego ont un vrai sujet de certainement trop mal s'entourer. Parce que quand t'as trop d'ego, tu es persuadé que t'es bon partout. Et donc, si t'es bon partout, tu ne recruteras pas les bonnes personnes au bon endroit sur tes vraies faiblesses, quoi. Et voilà, moi, je sais que je suis feignant. Je sais que j'ai du mal à produire. Je sais que... Enfin, tous ces sujets-là...
C'est de voir tes angles morts. Un
peu. Exactement. Et avec trop d'ego, ça t'empêche de les voir. Et laisser la porte ouverte pour que n'importe qui dans la boîte te dise « Mais Ben, qu'est-ce que tu racontes comme connerie ? Prends des vacances, parce que là, c'est plus possible, quoi. » Et là-dessus, je veux laisser la porte ouverte aux équipes pour me dire tout ce que je dois savoir, parce que je le prends comme un... Tu vois, comme un enseignement, et j'ai aucun problème, encore une fois, à revenir sur ce que j'ai dit. Et c'est un point qui est aussi très important, ce que je recherche dans les entrepreneurs dans lesquels j'investis. La pire phrase, c'est « j'ai une super idée, mais je ne peux pas t'en parler ». Moi, je suis pour la parfaite transparence parce que c'est une motivation pour faire mieux que les autres. Et donc, moi, je suis ravi de délivrer toutes nos idées stratégiques parce que si quelqu'un l'exécute mieux que moi et avant moi, c'est-à-dire que c'est un échec. D'Ornica. Et je trouve que l'avance que tu prends en ne communiquant pas ton idée, pour moi, c'est pas bon. Le moteur chez Ornica, c'est la concurrence. Moi, j'adore la concurrence. Et d'ailleurs, pendant un an, on était seuls, on était les premiers, et j'ai beaucoup appelé à ce qu'il y ait d'autres personnes qui viennent disrupter le marché de l'auto-école, et j'ai divulgué notre modèle. On paye 25 euros en enseignant, ça nous coûte tant, voilà notre marge, voilà machin. Les mecs, ils avaient plus qu'à se servir, quoi. Si t'es tout seul, tu ne vas pas innover. Tu vas pas essayer de d'améliorer la situation. Enfin, on voit bien, toi, les boîtes qui sont en situation de monopole, ouais, tu s'en foutent du exactement. Tu vas essayer de réserver un plombier à Paris. Ils s'en foutent de l'expérience utilisateur. Les mecs te facturent une fortune, etc. Parce qu'ils ont aucune. Enfin, la compétition, elle est nulle, quoi. Mais moi, je suis venu en G7. Mais le G7, c'est un luxe total grâce à Uber. Ouais. S'il n'y avait pas Uber, effectivement, ils auraient toujours des caisses pourries à t'insulter quand tu parles. Là, maintenant, c'est hyper sympa. Je prends beaucoup plus d'heures de G7, je prends quasiment plus de Uber. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Donc, je suis très à l'aise avec la compétition, mais effectivement, il y a un côté jeu.
Le fait de le voir comme un jeu, je trouve que ça te donne un avantage de l'énergie, ça te donne de la créativité. Parce que justement, moi, je le vois typiquement dans mon école de coaching. Je leur dis, même quand vous avez un cas de coaching qui est sérieux, si vous le voyez comme sérieux, vous allez galérer. Et ça paraît contre-intuitif d'aller rigoler d'un truc où la personne elle est en train de faire faillite, tu vas la coacher, mais je leur dis, moi quand je vais coacher la personne, c'est un jeu. C'est un jeu intellectuel, c'est un jeu pour l'aider à le voir autrement, à trouver des solutions.
Bah, je pense que le mode jeu, déjà, permet de dédramatiser l'échec. Tu te mets dans un mode jeu parce qu'en général, si tu perds un jeu, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Si tu perds une boîte, c'est tout de suite plus drama, quoi. Et donc, moi je me mets dans un jeu parce que je suis tout le temps prêt à perdre. Tout le temps. Et sur le pro, hein, pas sur le perso. et je n'entre jamais dans un rapport de force, dans une négociation, si je ne suis pas à l'aise avec l'échec. Si j'ai des gens avec qui je vais négocier plus tard, je peux vous assurer que ce n'est pas un bluff et que je suis tellement stupide et tellement cinglé sur certains sujets que je suis prêt à tout arrêter si jamais je ne suis pas à l'aise avec telle condition ou tel contrat. Et c'est ce que je demande à mes équipes. Ils disent, mais on a bossé 5 mois sur ce contrat, etc. Je dis, non, mais... Est-ce que là, on n'était pas en train de se faire avoir ? Oui, bon, bah là, on arrête tout. Moi, un autre exemple, qui était avec des partenaires, à un moment, c'était des partenaires où ils ne voulaient pas nous payer, je ne sais pas quoi. C'était des partenaires pour le code de la route et on avait négocié des rétro-commissions, etc. Et le mec, il me dit non, je ne veux pas. Je dis bah, ok, bah, on coupe. Il dit non, mais tu ne couperas pas. Je dis on parie. Mais 2 heures après, c'était coupé. Et le mec, une semaine après, j'étais en train de déjeuner avec ma mère. Je flippais un peu parce que c'était quand même le plus gros partenaire. Et là, je me souviens, j'étais en train de déjeuner avec ma mère. Et le mec m'appelle en disant, oui, écoutez, on en a reparlé en comité stratégique. Finalement, on est OK pour les conditions tarifaires que vous nous avez faites, etc. Ouf, parce que là, pour le coup, devant toute l'équipe, j'ai dit, on s'en fout, on coupe tout. Mais non, mais ça va être une galère et tout. On coupe. Et là, tout le monde dit, non, mais c'est quoi cet égo ? Tu vois, il y a un peu d'égo aussi. Hein. J'essaie de pas en avoir, mais je me soigne.
Et on a pas dit, parce que c'est intéressant quand même de savoir que tu viens d'une famille agriculteur.
Ouais, alors je évidemment, ma responsable RP de l'agence avec qui on travaille se fout toujours de moi parce que je viens de la version luxe de l'agriculture. Donc j'ai eu des parents, donc j'ai plus que ma mère, mais qui est exploitante agricole, céréalière, qui a une grande exploitation, famille aristocrate. J'ai jamais manqué de rien. Et l'équilibre vie pro vie perso, on en a parlé que très brièvement.
Vas-y, si tu veux.
C'est moi, je me serais jeté par la fenêtre si j'avais pas eu ma femme, ma famille et des potes qui me changeaient les idées, quoi. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est confronté à des montagnes russes de émotionnelles, et on a toujours des mauvaises nouvelles qui arrivent, puis des bonnes, puis des mauvaises, etc. Et ceux qui n'ont pas de soupape de décompression, mais la plupart ne tiennent pas, les burn-out, les dépressions, etc. Il y en a beaucoup plus qu'on ne pense chez les entrepreneurs, parce qu'il y a beaucoup de pression, on doit toujours prendre des décisions, etc. Il est important d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. Parfait. Enfin, moi, c'est en tout cas ma façon de faire. Je trouve que c'est le seul moyen. On a quand même traversé beaucoup de galères. Aujourd'hui, j'ai 23 procès à l'actif d'Ornicard. Bon, ça n'a pas été toujours une partie de plaisir. Mais le fait que je puisse dégager la pression le soir en parlant d'autres choses, etc., et pas mélanger, ce qui fait que moi, aujourd'hui...
Tu parles pas de ton, d'Ornicard.
Le moins possible. C'est difficile de dire que forcément, les gens te parlent de ça quasiment tout le temps. Mais pour le coup, je suis beaucoup moins bavard qu'aujourd'hui. Je dis, eh, ça va, ouais, ça va. Et hop, on passe à autre chose, quoi. J'essaye au maximum de le faire. Il faut absolument avoir ce sas de décompression. Moi, aujourd'hui, maintenant que j'ai deux enfants, je suis quasiment jamais après 19h chez moi parce que je veux être là et voir mes enfants avant qu'ils aillent se coucher. Et les week-ends, mais tu ne me verras jamais bosser un week-end. Jamais aller au bureau un week-end. Jamais être au bureau après 20h. Tout ça, c'est des trucs où... Et je...
Ok, Elon Musk, c'est pas ton modèle, quoi.
Pas du tout. Mais pas du tout. Ma vie perso est... Désolé pour les gens qui ont investi chez moi, qui est 1 milliard de fois plus importante que ma vie pro. Que je serais prêt à sacrifier toute ma vie pro pour un tout petit élément de ma vie perso. Je veux pas me réveiller à 45 ans avec mes enfants qui me disent bah, en fait, j'ai plus envie de partir avec toi, j'ai 15 ans maintenant, ça m'emmerde de partir avec toi. Aujourd'hui, ils ont 1 et 4 ans et je veux pouvoir partir en vacances avec eux, je veux pouvoir les coucher le soir, etc.
Sur Business Impact, on a différents types de profils, plus ops ou plus vision, et typiquement, cette manière de vendre la boîte que t'as, le côté, il y a une énergie simplement quand t'en parles dans l'interview, et quelqu'un qui soit est comme ça ou veut juste développer, ne serait-ce que moi, hein, c'était vraiment cool d'entendre la manière dont t'en parles et ce côté ambition. J'ai fait ce switch parce qu'en fait, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition, mais j'étais dans une audience, enfin, dans une cible, dans un marché plutôt, orienté bien-être, qui a du mal avec l'ambition, et en fait, j'assumais pas ce côté-là. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme toi qui en parle, ce côté à sortir à out of the box, réfléchir différemment, cette manière de, aussi d'assumer. J'adore cette citation d'Einstein, si t'es un poisson et que tu passes ton temps à te comparer à un singe, à sa capacité à monter à l'arbre, tu vas te sentir stupide toute ta vie. Bah, j'aime bien ce truc-là chez toi, c'est ce côté... En fait, je sais que je suis un putain de poisson en termes de ma capacité à vendre une vision, à en parler, à être à la rêver moi-même,
ouais.
Et cherche pas à être un singe qui va mettre des process en place. Et ne serait-ce que ça, je trouve ça ouf en fait.
Mais ouais, je suis d'accord. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, c'est une fois qu'on a fait cet exercice-là, tout paraît beaucoup plus simple. Parce que des singes, il y en a sur le marché, donc ça peut se recruter. Quand on est conscient qu'on ne sait pas grimper aux arbres, eh ben on va recruter la personne qui sait faire. Et tout est beaucoup plus simple, mais il faut avoir cette honnêteté de dire, et même moi je l'exacerbe, je sais pas, je suis nul dans ça. Pas je sais pas faire, je suis nul, et ça ne m'intéresse pas, et ça m'emmerde, et c'est machin, etc. Et, ce qui fait que, et puis surtout, je suis hyper transparent. Je ne mens pas, en tout cas à mes fonds dans la boîte, je mens pas sur qui je suis. Je ne suis pas en train de me travestir en disant ah, mais moi je suis le roi de l'exécution. Avec mes fonds, j'ai toujours été même la caricature de moi-même pendant les négociations. Je ne sais pas rapidement, mais qui est je suis un entrepreneur pas facile à gérer, colérique et feignant et incompétent sur plein de sujets. Et voilà. Et je n'ai qu'un seul engagement avec vous, mes investisseurs, c'est de faire x2, x3 en 5 ans. Tout le reste, je ne veux même pas en entendre parler. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez une solution, et encore une fois, je ne m'y opposerai pas, c'est de me renvoyer. Virez-moi, trouvez un autre entrepreneur. Voilà. Moi, je vais vous faire votre return. Vous êtes là que pour ça. Il faut essayer de ne pas travestir qui on est. Et une fois qu'on est très au clair sur qui on est, tout devient beaucoup plus facile dans les interactions avec les gens.
Et qui dans la boîte gère là, les objectifs qui sont fixés au quarter ou à l'année?
Alors, les équipes gèrent, mais il y a deux choses. C'est mon associé, avec l'aide de, notamment de la chief of staff d'Ornicar, met en place tout le process de gouvernance. Mon associé, qui est une brute de travail et une brute d'exécution et qui est 100% orienté vers l'interne. Et voilà, et on a chacun nos forces et nos faiblesses. Et c'est ce qui fait qu'on fonctionne si bien avec mon associé. Je serais incapable de faire ce qu'il fait et lui serait incapable de faire ce que je fais. Et moi, aujourd'hui, j'investis un peu dans quelques startups et je regarde toujours la complémentarité. C'est ce qu'il y a de plus important, quoi. C'est qui les personnes qui sont à la tête du projet ? Peu importe s'ils vendent des emballages de crottes de chien en papier, carton recyclé, je m'en fiche. Je veux savoir, est-ce qu'ils sont complémentaires et est-ce qu'ils sont, ou elles sont, hein, bien sûr, optimistes. Ambitieux, tout le monde l'est. Moi, je pense que la clé d'un bon CEO, d'une bonne CEO, c'est d'être naïvement, éperdument optimiste, quoi qu'il arrive. Et moi, c'est ma force aujourd'hui, c'est qu'on pourrait... traverser une tempête comme on a traversé au début de la boîte, à chaque fois je vais aller voir le côté positif des choses.